Vous écoutez nos balados au cœur de l'apprentissage présentés par les services éducatifs du Centre de services scolaires de la Beauce-et-Chemin. Un espace de partage et de réflexion conçu pour mettre en lumière les pratiques porteuses de notre communauté éducative. Ici, chaque voix compte. Nous donnons la parole à celles et ceux qui, chaque jour, façonnent l'éducation.
Bonjour Manon, bonjour Caroline. Salut. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. On va se prendre un petit peu de temps pour se parler de leadership dans le cadre de la conduite d'une transformation organisationnelle pour soutenir le développement des compétences de l'apprenant. Toi, Manon, tu es la polyvalente Bélanger, hein, je crois?
Oui, ça fait une douzaine d'années que je suis en direction. Auparavant, j'agissais à titre d'enseignante de mathématiques de sciences. Et le développement des compétences de l'apprenant m'intéresse depuis mon début en direction. Donc, ça fait un petit bout là que je patauge là-dedans.
Et toi, Caroline, à l'École du Trait d'Union à Saint-Prosper?
Oui, c'est ma première année complète cette année, là, comme gestionnaire d'une école primaire. Mais avant, j'ai été 4 ans conseillère pédagogique pour le centre de services. Et auparavant, enseignante au primaire, vingtaine d'années. Je dirais que le développement des compétences est arrivé plus, je dirais, dans mon rôle de conseillère pédagogique. J'ai accompagné, dans le fond, des gestionnaires dans les changements organisationnels, entre autres en lien avec ce développement de compétences-là. À l'école Trait d'Union, ben, je poursuis ce développement-là avec le personnel qui est là.
Je suis très contente d'être avec vous deux aujourd'hui. Dans le fond, dans notre épisode précédent, on a un peu situé la mise en contexte de d'où est-ce que tout ça est arrivé, en fait, d'où est-ce qu'on a commencé à s'intéresser au développement des compétences de l'apprenant. Donc, l'objectif aujourd'hui de cet épisode-là, c'est de plus se parler du rôle et de la posture des gestionnaires, en fait, dans la conduite d'une transformation culturelle au sein d'une école, bien sûr, en lien avec le développement des compétences de l'apprenant. Puis, on va aussi possiblement parler du rôle des autres acteurs qui vous accompagnent. Puis, plus précisément, ben, en quoi ça consiste le leadership par le milieu, hein, qui est une stratégie dont on connaît l'efficacité pour ce type de changement-là. J'aimerais ça tout d'abord un peu qu'on se parle de la posture d'apprenante en chef que vous avez su adopter au sein de vos milieux pour inspirer vos équipes. On sait que le leadership, ça renvoie à la façon d'incarner cette posture-là d'apprenante en chef. Puis, moi, j'aimerais ça savoir, dans ce sens-là, votre rôle, vous, comme direction d'école, c'est d'orienter intentionnellement vos équipes vers le développement des membres du personnel dans la poursuite du développement des compétences d'apprenants. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de la façon dont votre propre posture à vous, en tant qu'apprenante en chef, ça vous a permis d'inspirer les membres de votre équipe école à cheminer vers ça?
Juste pour se mettre en contexte, tantôt, Mme Caroline parlait de l'École du Trait d'Union. Moi, j'ai fait direction primaire au secondaire, puis chacun des milieux est propice à ça. Puis quand on dit notre posture d'apprenant, ben c'est nous comme direction, quand on arrive d'un milieu, c'est de regarder ce qui se fait. Puis à l'école primaire, l'école du Trait d'Union, ben tout était là pour que ça se place. Donc, c'est d'arriver avec des exemples, ce qui se fait au quotidien, telle expérience, telle situation, c'est de s'en servir comme levier pour amener ensuite le vocabulaire relié aux compétences de l'apprenant.
Ça, dans le fond, moi, je prenais la place, dans le fond, de Manon à l'école. Puis, déjà, les valeurs puis le projet éducatif de l'école venaient beaucoup chercher quelque chose qui me faisait vibrer, dans le fond, que j'étais en accord avec ça. Fait que moi, j'avais juste à continuer ça. Fait que souvent, tu demandes des exemples concrets, c'est que ce soit un élève ou un enseignant qui vient me faire une demande, qui me jase soit dans mon bureau, soit dans l'école, ben souvent je vais questionner beaucoup, écouter beaucoup aussi. Puis souvent les réponses, c'est pas moi qui les ai, c'est les gens qui vont me les apporter. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois cette situation-là? Les enfants, la même chose, hein, quand ils viennent nous voir, ils ont une demande ou quelque chose de particulier à nous faire, ben tu sais, c'est de renvoyer à l'élève. C'est quoi ton attente? Qu'est-ce que tu veux faire? As-tu des solutions à m'apporter? Même chose avec le personnel. Fait que c'est un peu ma posture. Puis aussi, moi, vu que j'étais nouvelle, je connaissais pas tant les gens, je connaissais pas tant le milieu non plus, mais ça me permettait de leur dire, bon, je sais pas votre fonctionnement, je sais pas comment vous voyez les choses. Fait que j'ai beaucoup été en mode écoute. Puis je pense que je leur ai montré que je savais pas tout non plus. Moi, les réponses, je les ai pas, là. Fait que je me sers beaucoup dans mon rôle des élèves et du personnel pour qu'eux m'amènent ça, puis qu'on trouve ensemble comment on veut développer là, ces compétences-là de l'apprenant.
Comme tu disais, c'est se servir des élèves. Un exemple aussi concret que Mathieu, sixième année, vient me voir. Madame, maintenant, je veux faire du basket le soir. Ben, moi, je réponds, ben, Mathieu, j'ai pas le temps comme directrice de m'en occuper. Je dis, je pourrais pas faire ça. C'est toi, Mathieu, qui va bâtir le projet. Donc, je l'ai guidé à travers tout ça. Là, ça te prend une lettre aux parents. Ça te prend un prof. Ça te prend voir avec le concierge. Donc, c'est ça. Je me sors beaucoup des enfants, moi, pour amener le changement à l'intérieur de l'école. Là, c'est eux qui m'apportent l'énergie, qui m'apportent les façons de procéder, le processus.
Julie, moi, je l'ai beaucoup senti, ce qu'elle dit, parce que les enfants, naturellement, très bien, viennent me voir pour me poser des questions comme ça aussi. Aussi, ben, c'est de faire, c'est de dire les mots qui nous viennent en tête par rapport au développement des compétences. Puis les leviers aussi des fois qu'on observe. Par exemple, j'ai une éducatrice qui est venue me demander, qui ne connaît pas du tout le développement des compétences, qui est nouvelle à l'école, qui me demande, j'aimerais faire du bénévolat, j'aimerais ça amener des élèves pour qu'ils vivent ça, parce que j'ai entendu parler, par exemple, du développement de la citoyenneté et tout ça. Tu sais, elle connaissait, mais pas tant que ça. J'ai dit, ben oui, j'ai dit, en faisant ça, j'ai dit, tu lises les partenaires. Puis, tu sais, ton exemple, tu parles de l'élève devient le partenaire même de la direction. Fait que ça fait, je trouve que c'est un bel engagement après quand ça vient d'eux.
Ben, à vous entendre, ça a l'air simple et facile, mais j'imagine qu'il y a des conditions qui sont favorables afin de devenir une apprenante en chiffres. Hein. Vous parlez de ça, ça vous habite. Mais si vous aviez à me parler des conditions qui font en sorte qu'on devient facilement ou en tout cas qu'on adopte une posture d'apprenant en chef, ça serait quoi ces conditions-là?
Bien, moi, je pourrais dire que quand je suis arrivée, dans le fond, je n'ai pas du tout participé à l'élaboration du projet éducatif. C'est Manon qui était là. Donc, moi, je m'appuie sur mon projet éducatif. Donc, il est écrit avec les gens. Donc, il parlait aux gens déjà. Fait que moi, c'était facilitant d'arriver dans des conditions où ce sur quoi je dois m'appuyer dans mes décisions à tous les jours a été fait par les gens entre eux aussi. Quand je parle du projet éducatif, ils le connaissent. J'y fais souvent référence quand je leur parle. Fait que ils sont au courant, ils savent c'est quoi, ils le connaissent bien. Fait que c'est facilitant pour moi. Que ça a été mis en place par Manon là, avant que j'arrive.
Une des conditions favorables, c'est de se servir de ce qui se fait déjà. C'est pas d'amener de la nouveauté dans tel type de projet, c'est qu'est-ce qui se fait, de quelle façon on peut y donner la couleur du développement des compétences de l'apprenant. Bon, mais toi, tu fais ça, est-ce que tu as remarqué qu'on travaille la collaboration, on travaille la créativité, fait qu'on pense par ce qui se fait déjà, puis on amène les mots par la suite. Puis comme tu disais, le contexte du projet éducatif, c'est un levier exceptionnel à ce moment-là. Donc, toute l'analyse a été faite selon les 4 leviers. Donc, c'était un bon moment là pour arriver puis l'inscrire.
Et aussi, c'est de... Quand on poursuit... je poursuis la direction à cette école-là. Je dirais que même le sens de développer les compétences était présent. Donc, même les nouvelles personnes qui arrivaient à l'école, comme moi, disaient, on a entendu parler que on développait les compétences, puis ça nous parle, ça nous intéresse. Puis naturellement, même si ils connaissaient pas nécessairement, ça peut être des éléments qui contribuent au développement des compétences dans une école, même s'ils connaissent pas toute la théorie en lien avec ça, puis comment le faire, c'est de... Dans notre posture, tu en parlais au début, notre posture apprenante, de dire ben comment on pourrait le développer, leur laisser la parole, les questionner et soulever les initiatives des enfants et du personnel aussi. Même si des fois, si c'est tout petit, là, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai un enseignant à l'école qui envoie des communications à la maison, voyons, je le dis. Puis, il va se baser sur les 6 compétences pour exprimer aux parents comment va leur enfant. Donc, au lieu d'avoir seulement des nouvelles sur comment ça va en mathématiques, en français, ben ils savent, par exemple, que leur enfant est créatif, a, dans une telle situation, développé sa communication. Ça, c'est pas nécessairement un projet très grand, mais qui a un impact. Les parents apprécient ça d'avoir ce retour-là en lien avec développer les compétences personnelles autant que les compétences académiques.
Comme tu nommais, une des conditions aussi, c'est que tout le monde se sente concerné. Peu importe ton corps d'emploi, secrétaire, conciergerie, enseignant, éducateur spécialisé. Puis, je me rappelle, un moment donné, on tombe plus de concierge. C'est un problème. Fait qu'on a adressé aux enfants la problématique et eux nous ont trouvé des solutions et ils se sont mobilisés. Donc, toute conciergerie, secrétaire, c'est tout le monde en soi, conscient de qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes.
C'est drôle que tu parles de la conciergerie parce que cette année, il y a eu un élève qui aimait ça travailler avec la concierge de mon école puis qui voulait vraiment l'aider, lui rendre service. Puis c'est vrai que peu importe le corps d'emploi, les gens ils ont comme compris à Trait d'Union que le développement des compétences, il appartient pas à une seule personne. Il est réparti également à l'ensemble des gens. Quand ça donne du sens à la majorité, ben je pense que c'est là qu'on le développe davantage.
Ben je trouve ça intéressant, hein? Comme le disait le bon vieux proverbe africain, ça prend tout un village pour éduquer un enfant. À travers tout ce que vous nous avez raconté, moi ce que j'entends, c'est toutes des conditions que Michael Follen et son équipe ont nommées comme étant des conditions d'exercice du leadership par le milieu. Cet auteur-là, ce qui nous apprend, entre autres, sur ce que c'est le leadership par le milieu, c'est que c'est une stratégie vraiment délibérée, donc intentionnelle et volontaire, que des gestionnaires, des leaders, en fait, au sein d'une école, peu importe leur rôle, on peut tous être appelés à jouer un rôle de leader à un moment ou à un autre, vont déployer pour renforcer, en fait, les capacités de cohérence d'un milieu. C'est beaucoup ça que vous nous avez dit, hein, à travers le fait que tout le monde se sent concerné. Puis, cette stratégie-là, entre autres, elle repose, vous l'avez beaucoup dit, sur une culture de l'apprentissage au sein des milieux. Cette volonté-là, cette curiosité-là d'avoir envie d'apprendre, de savoir, de connaître. Puis cette culture-là, en tout cas, de la façon que vous en parlez, elle semble s'ancrer notamment dans la transparence de la pratique, dans le développement du langage commun, ce que vous avez beaucoup parlé aussi, puis de compétences communes qui sont fondées sur des connaissances qui sont issues forcément de la recherche. On n'a pas pris ça à nulle part, là. Ça vient de recherches empiriques qui ont été faites sur le terrain aussi. Mais c'est aussi basé sur des mécanismes intentionnels de partage de pratiques. Hein, quand vous demandez aussi aux enseignants de entre eux de s'échanger ou que on invite des gens à venir dans notre classe ou on ouvre les portes des différents corps d'emploi, tout ça dans le fond c'est très innovant. Ce sont des pratiques innovantes qui viennent soutenir le développement de l'expertise petit à petit. Hein, c'est pas le but de faire tout parfaitement du premier coup, mais d'être là ensemble puis de l'apprendre ensemble. Incarner un leadership par le milieu, moi, je pense que vous savez le faire. Vous rejoignez parfaitement bien ces 8 conditions-là parce que vous y avez fait référence tout au long de cette question-là. Hein. Dans le fond, améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants, établir des relations de confiance avec les membres du personnel, entretenir des buts élevés d'apprentissage auprès des élèves, hein, pas que l'académique qui compte, hein, mais il y a plein d'autres aspects qui sont importants de développer aussi. Recourir à un leadership délibéré et à une facilitation chevronnée, à travers tout ce que vous avez dit, de nommer, mettre des mots sur, on est vraiment là. De tourner aussi le regard vers l'intérieur pour apprendre, de se demander soi-même comment je peux m'améliorer, mais de regarder, de s'inspirer également de l'extérieur pour apprendre, hein, de regarder ailleurs ce qui se fait. Puis, ben, vous y avez fait référence très souvent, former des nouveaux partenariats, que ce soit avec les familles, la communauté, les entreprises. Donc, tout ça, ce sont des façons dont peut s'exprimer le leadership par le milieu. Vraiment intéressant, mesdames. Vous devez avoir rencontré des petits obstacles un peu, j'imagine. Tout n'a sûrement pas été comme un long fleuve tranquille. Pouvez-vous nous parler un peu, ben justement, des obstacles que vous avez eu à surmonter puis de la façon dont ça s'est passé? Quelle expérience que vous retirez de ça?
Ben, moi, je commencerai par mon expérience. Comme j'ai dit en entrée de jeu, ça fait juste une année que je suis avec cette équipe-là. Alors, tu apprends à connaître les gens puis tout ça. Puis, quand ses valeurs, les valeurs de l'école, la mission, ce qui est dans le projet éducatif, tu l'as à cœur. Des fois, tu as envie de tomber dans le piège de regarder ceux qui adhèrent moins, peut-être. Puis je dirais que c'est un piège parce que il faut regarder ceux qui vont de l'avant, puis tu sais, laisser le temps aussi aux gens. Parce qu'il y en a des fois, tu sais, moi, les connaissant moins, ben bon, je pouvais observer différentes façons de faire dans l'école. Puis c'est correct aussi de laisser le temps aux gens de s'approprier, de regarder les autres faire, de valoriser aussi différentes initiatives. Je pense que c'est ça, c'est, je pense que c'est miser un peu maintenant sur ceux qui ont l'intérêt aussi, je pense, en priorité.
C'est sûr, parce que l'école, où est-ce que tu es présentement, c'était dans l'ADN de l'école. C'est que les mots étaient peut-être pas là, mais c'était déjà très ancré. Quand on change de milieu, bien, peut-être autant de gens n'y adhèrent pas, mais il y a quand même des électrons libres à différentes places qui commencent à faire des initiatives, et je trouve que c'est tout aussi important. Fait que peu importe la quantité qui adhère au départ, c'est d'y croire, puis travailler avec ceux qui veulent, puis après ça, ça fait des petits. Puis aussi, il faut faire attention à la grosseur du projet. Quand j'ai commencé à travailler avec mes premières écoles, bon, on essayait de faire des gros projets écoles, puis on se rend compte que ce qui peut avoir beaucoup de portée aussi, c'est quand le projet il est mince, vécu dans une classe, dans une situation d'apprentissage minime, ça se fait encore là, le développement des 6C. Donc, c'est pas la grosseur du projet, c'est l'intention au départ. Moi, je veux développer la collaboration chez mes élèves, c'est très clair. Je peux le faire dans un travail d'équipe. Ça, ça a autant d'impact que si je fais un gros projet cours d'école.
J'ajouterais aussi, des fois, c'est de souligner, tu parlais tantôt des pratiques qui sont probantes. Une enseignante d'éducation physique, par exemple, me disait, moi, j'aime ça qu'ils s'auto-évaluent, qu'ils se fixent un défi au gymnase. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte qu'en faisant ça, j'ai dit, ton enseignement, il est comme différent un peu. Tu mets des buts élevés aux élèves, tu leur demandes de les atteindre, tu leur fais une rétroaction. Et quand j'ai des initiatives comme ça, ben, même si, comme tu dis maintenant, même si c'est pas nécessairement, on a des projets qui sont des fois qui prennent plus d'ampleur. Par exemple, faire un marché printanier où on a vendu des choses, on a développé beaucoup l'entrepreneuriat des élèves. Mais pour moi, cette enseignante-là qui a des buts élevés d'apprentissage chez ses élèves, pour moi, c'est aussi important qu'il faut le souligner autant. Fait qu'il faut pas tomber, je suis d'accord avec Manon, dans le piège de regarder seulement ce qui est des projets de plus grande envergure, parce que des petits gestes simples dans les classes peuvent développer autant les compétences de l'apprenant qu'un projet plus d'ampleur.
Tout part d'une intention, en fait, hein? Et justement, vous, ben, vous êtes nourri de plein d'intentions auprès de vos équipes écoles. Pourriez-vous nous parler de, entre autres, quelques réussites ou des réussites peut-être plus significatives? Puis un peu aussi, ben, à quoi on peut attribuer ça, ces réussites-là? C'est sûrement pas juste le fruit du hasard.
Ben, je dirais que moi, mon arrivée, dans le fond, comme on a dit tantôt, il y avait quand même des bonnes conditions, mais je dirais que les gens, le langage est très développé par rapport aux compétences. Donc, je l'entends beaucoup. Ils vont faire des liens. C'est pas tout changer, développer les compétences de l'apprenant. Si je donne un exemple, j'ai une enseignante, par exemple, quand elle se déplace dans les corridors, par exemple, elle faisait souvent les enfants un geste comme ça pour dire, hey, faut pas te déranger. Pour vrai, il est en train de travailler la citoyenneté. Je fais attention de pas déranger les autres au travail et tout ça. Fait qu'au lieu de faire le geste des petits, là, des petites premières années, ben il y a un élève qui a la pancarte. On a des logos associés aux différentes compétences. Puis l'enfant le lève et dit aux autres, ben, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on sait que la citoyenneté, c'est tenir compte de l'autre, par exemple. Et ça peut être un exemple concret là d'expérience sur le terrain qui est une belle réussite. Il y a toujours des élèves qui marchent dans une école, on voit ça régulièrement, mais de l'associer, de le rendre conscient, l'enseignant et les élèves que pendant qu'ils font ça, ils développent une compétence. C'est ça peut-être. Moi, ma plus grande réussite, ça serait ça, c'est de rendre conscient les petits gestes en lien avec le développement de ces compétences.
On parle de réussite. Moi, la première que je verrais, c'est ma belle Stéphanie, hein, que adulte que j'ai vue avancer dans l'année. Je me suis présentée avec elle ici au centre de service à sa rencontre de bilan. 2-3 jours après, je la recroise dans l'école, les yeux pétillants. Madame Manon, je regarde mes élèves en septembre, je les regarde dans la fin d'année et elle me nommait les compétences à développer chez nos élèves. Donc, c'était assez clair. Pour moi, je suis contente. Elle a rayonné, elle a fait des actions dans sa classe et ça a une portée chez les jeunes de secondaire. Une autre réussite aussi, c'est que le développement des compétences ne se fait pas seulement avec la clientèle du régulier. Au niveau de la clientèle d'adaptation scolaire, j'ai une enseignante qui pousse ses élèves, les enfants connaissent le langage et c'est de toute beauté. Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être ces jeunes-là pour qui ça va tirer encore plus profit de travailler sa résilience, la persévérance, le caractère. Donc, peu importe qui est l'humain devant toi, on peut apprendre.
Et si vous aviez un conseil pratique à donner aux personnes qui nous écoutent pour mettre en œuvre des initiatives semblables aux vôtres, ça serait quoi?
C'est une philosophie, hein? C'est une façon, comme tu disais au début, c'est d'être incarné. Moi, je pense c'est de laisser la place aux enfants, de prendre le temps d'écouter le jeune, d'écouter l'enfant, qu'est-ce qu'il a le désir d'apprendre, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il souhaite, puis il nous amène où est-ce qu'on doit aller. J'ai mes élèves de 5 là, qui viennent partir, donc j'ai perdu mes ouvriers, mes aides à l'entretien. Donc, c'est d'écouter les jeunes dans ce qu'ils souhaitent, puis ensuite, on avance.
Bien, moi, je dirais que vu que je suis nouvelle dans cette profession-là, j'ai trouvé que établir une relation de confiance avec le personnel, ça a vraiment aidé à... Je les questionne, que je pose des questions sur qu'est-ce qu'ils font et tout ça. En le faisant, ben tu sais... On a un échange, je suis capable de questionner un petit peu, qu'est-ce que tu as en tête quand tu fais ça? Pourquoi tu fais ça de telle façon? Fait que je pense que d'avoir du temps, se donner le temps de développer une relation de confiance avec tout le monde, ben, ça nous aide, oui, au développement des compétences, mais au bien-être des élèves, au bien-être du personnel, parce que je pense que quand on prend le temps d'écouter autant les enfants que le personnel dans leurs demandes, dans ce qu'ils veulent faire pour ces jeunes-là, que ça sera pas si long que ça, qu'ils vont devenir des adultes. Hein. Des fois, ça paraît loin, mais ça va quand même assez vite aussi. Fait que je pense que en établissant cette relation de confiance-là, ben ça me permet de faire des rétroactions fréquentes aux gens sur qu'est-ce qu'ils font. Puis je pense que je dirais que c'est le premier conseil aussi que je donnerais. Établir le lien de confiance, pour moi, c'est vraiment important.
Bien, merci beaucoup, mesdames. Je pense que je conclurai en résumant avec une phrase que ce que vous avez relaté tout au long de l'entretien. Je dirais que on a peut-être passé d'un moment ou d'une époque hein, où on avait beaucoup besoin des experts pour nous dire comment faire et on se faisait donner beaucoup de conseils qu'on se sentait rarement capable d'atteindre ou d'honorer, de rendre aussi grand que ce que l'idéal nous montrait. Puis pour paraphraser Michael Fullan et son équipe, ben on n'est plus à cette époque-là d'apprendre des autres et de se faire dire comment faire, mais on est peut-être plus rendu à l'époque où on doit l'apprendre ensemble, se faire confiance, puis progresser tout simplement. Et que je veux vous remercier beaucoup de votre temps, de votre enrichissant partage. Puis, on se retrouve peut-être pour un prochain épisode. Merci.
Merci, Julie.
Merci de votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.